Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Des morts et des blessés enregistrés dans l'Est de la RDC depuis l'entrée du M23 soutenu par le Rwanda. La chef de la MONUSCO l'a signalé hier à la nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Pour sa part, la ministre congolaise des Affaires étrangères indique que le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert en RDC. Pendant ce temps, à Bukavu, la vie reprend timidement après l'entrée des rebelles du M23 dans la ville. Mais la situation socio-économique de la province du Sud-Kivu reste déplorable, disent des sources sur place. Et puis, le comité international de la Croix-Rouge s'implique dans le rétablissement de l'électricité dans la ville de Goma. Les affrontements autour de cette ville ont causé des conséquences néfastes sur le plan humanitaire notamment. Pour en parler, nous recevons Éléonore Assoumani, porte-parole du CICR à Goma. Madame, Messieurs, bonjour. Nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier à New York. Réunion consacrée à la crise qui prévaut dans l'Est de la RDC. La situation s'est détériorée depuis la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Des morts et des nombreux blessés ont été enregistrés alors que d'autres personnes sont menacées de représailles. Pendant ce temps, le M23 bloque le travail de la mission onusienne. C'est ce qu'a déclaré Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, lors de son intervention à cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute.
En dépit des multiples appels internationaux à un cessez-le-feu, le M23, soutenu par l'armée rwandaise, a continué sa progression dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Depuis la prise de Goma, le M23 impose de sévères restrictions sur la liberté de mouvement de la MONUSCO, empêchant les efforts visant à évaluer les dégâts à l'aéroport de Goma et à aider à l'élimination en toute sécurité des munitions non explosées dans la ville. Le M23 a également empêché la MONUSCO à réapprovisionner en eau et autres produits de première nécessité les troupes de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo. De plus, le M23 contrôle toutes les routes entrant ou sortant des zones sous sa domination. Cela pose de sérieux défis au personnel civil et en uniforme de la MONUSCO.
Autre intervention au cours de cette même réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier à New York, c'est celle de la ministre congolaise des Affaires étrangères. Pour Thérèse Kayikwamba Wagner, le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert en RDC. La ministre dénonce les exactions enregistrées dans les territoires occupés par le Rwanda et ses alliés du M23. Je vous propose d'écouter la ministre Thérèse Kayikwamba dans cet extrait choisi par Freddy Lufuluabo.
Le Rwanda prépare un carnage à ciel ouvert avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. En 48 heures seulement, plus de 4000 morts à Goma. Des enfants témoins d'exécutions sommaires, tués sans distinction ou exécutés avec une précision glaçante. Plus de 4500 blessés ont afflué vers des hôpitaux débordés. 500 corps ont été retrouvés calcinés dans la prison de Mounzenze. Voilà ce qui se passe quand un groupe terroriste prend le contrôle d'une ville et impose son administration criminelle sous le regard de ce conseil. Ce conseil qui observe, ce conseil qui condamne, mais ce conseil qui n'agit pas. Et maintenant, Bukavu, même scénario. Pillage, hôpitaux détruits, routes coupées. Une guerre qui tue aussi par la faim et la privation des soins.
Rendons-nous dans la ville de Bukavu. La population s'est remis peu à peu des séquelles subies lors de l'entrée des rebelles du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Certaines activités privées ont repris, tandis que celles à caractère étatique n'ont pas encore démarré. Plus de détails dans ce reportage d'Élise Kavira.
Les activités reprennent petit à petit à Bukavu. Dans la commune d'Ibanda, précisément au marché de Niaouira, les petits commerçants étalent leurs marchandises, mais plusieurs étalages sont encore vides. Même au marché central de Kadutu, où seuls les vendeurs des produits vivriers sont visibles.
Ils se demandent si une fois ils commencent les activités, est-ce qu'ils ne vont pas subir le même sort que ceux des Gomansibi, Niabibwe, Kalehe, comme il y a eu des bombardements là. Donc on est toujours frustrés. Nous sommes en difficulté de reprendre comme ils font les activités.
Les bureaux des services étatiques, notamment les ministères, les divisions et les banques, n'ont pas encore ouvert les portes.
Les occupants de la ville ont convoqué la population pour un meeting. On y est arrivé et ils ont demandé à la population d'être calme, d'être coopérant et qu'il n'y a pas de problème. On voit depuis hier, les motos commençaient à circuler, à faire les transports en commun. Et aujourd'hui, on a vu, déjà il y a voitures, taxis, les minibus qui font les transports en commun.
La journée de ce mercredi à Bukavu a été aussi marquée par un meeting populaire au cours duquel une mise en garde a été lancée à toute personne qui détiendrait une arme à feu.
Reprise timide des activités à Bukavu, oui, mais la situation socio-économique de la province du Sud Kivu reste déplorable. Les récentes scènes de pillage ont affecté des secteurs clés de l'économie de la province. C'est le cas de la société brassicole Bralima. Mais que représente la Bralima dans l'économie du Sud Kivu en général? Emmanuel Elamegi.
D'abord, en termes de recettes à caractère national, la Bralima Bukavu était le plus grand contribuable de la DGI, Direction Générale des Impôts, avec plus d'$1 million américains par mois, à la DGDA, avec plus ou moins $1 million américains par mois pour les importations et d'autres assises, à la DGRAD, ainsi qu'à l'OCC et bien d'autres services étatiques. Pour la province du Sud Kivu spécifiquement, la Bralima Bukavu paye autour de $400 000 par mois au gouvernement provincial en termes de taxes sur consommation de produits brassicoles. La Bralima Bukavu paye plus de 60% des recettes à la régie des eaux locales, plus de 400 milliards de francs congolais. Même chose pour la Société nationale d'électricité SNEL Bukavu. Ensuite, au sujet de l'emploi, la Bralima Bukavu emploie directement plus de 1000 personnes, contractants et sous-traitants. Donc, à ce jour, c'est plus de 1000 familles et dépendants qui pourraient perdre le moyen de subsistance en cas de chute de cette société brassicole. La Bralima Sud Kivu reste ainsi le plus grand poumon économique de la province du Sud Kivu.
Pendant ce temps, en Ituri, dans le territoire de Djougou, plus de 700 personnes victimes des récentes attaques des miliciens de la Codeco dans les camps de pêche de Mita et Loromi vivent dans des conditions difficiles à Chomia, au bord du lac Albert. D'après des sources locales, ces personnes, en majorité des enfants et des femmes, ont fui les accrochages entre les FARDC et cette milice depuis quelques jours. Leurs villages sont restés occupés par les militaires des FARDC. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Des centaines de civils, dont des enfants et des femmes, sont concentrés depuis lundi dans différents camps de pêche de Sabé et Nyakova dans le groupement de Chomia au bord du lac Albert. Ces personnes ont abandonné leur village après un violent accrochage en début de semaine entre l'armée et un groupe de miliciens de la Codeco. Ces derniers voulaient s'attaquer aux civils dans une ferme afin de piller leur bétail. Les échanges des tirs qui ont coûté la vie à un militaire des FARDC et blessé 6 civils par balle, en plus du campement des militaires qui a été incendié. Des sources locales rapportent que les soldats des FARDC ont indexé certains civils, les accusant d'avoir comploté avec les miliciens. Une situation qui a semé la panique dans le village, poussant de nombreux habitants à se déplacer, craignant des actes de représailles. Un activiste des droits humains à Chomia affirme qu'environ 100 familles ont trouvé refuge à Chomia Centre, Sabé et Nyakova. Certains passent la nuit dans des abris de fortune et d'autres dans des familles d'accueil. Cependant, ajoute-t-il, ces personnes manquent de tout et ont besoin d'une assistance humanitaire urgente. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Par ailleurs, la Croix-Rouge de la RDC, le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, Fédération internationale, se disent profondément préoccupés par la dégradation continue de la crise humanitaire dans l'est de la RDC, en particulier à Goma. Dans un communiqué, ces organisations indiquent que des milliers de civils, dont des femmes, des enfants, des blessés et des malades, sont frappés de plein fouet par les effets du conflit. Les derniers combats dans la ville de Goma, capitale du Nord Kivu et ses environs, ont forcé des centaines de milliers de personnes à prendre la fuite en laissant tout derrière elles. Alain Roumouchinch nous fait le condensé de ce communiqué.
Au-delà de plusieurs milliers d'habitants de la ville, ce sont aussi près de 300 000 autres personnes qui avaient trouvé refuge dans des camps de déplacés situés à la périphérie de Goma qui ont fui les affrontements, lesquels d'ailleurs ont laissé plusieurs centaines de corps sans vie gisant dans les rues. Le CICR soutient la Croix-Rouge de la RDC pour procéder à l'enlèvement digne et sécurisé des dépouilles à Goma. Nous sommes inquiets pour les personnes déplacées qui se trouvaient à Goma et qui étaient déjà très vulnérables après avoir fui parfois à de multiples reprise d'autres territoires du nord et du sud Kivu. La situation humanitaire qui prévaut actuellement à Goma et à Bukavu est très préoccupante. À Goma, les morgues des hôpitaux sont complètement saturées. Près de 190 volontaires de la Croix-Rouge de la RDC, appuyés par une équipe de coordination, travaillent sans relâche afin de récupérer les corps abandonnés dans les rues, de lutter contre les épidémies et d'offrir un enterrement digne aux victimes des combats. Il est urgent d'apporter une aide supplémentaire face à des besoins aussi important, alerte Grégoire Matesso Mbuta, président de la Croix-Rouge de la RDC.
Et puis, cette inquiétude du ministre provincial des ITPR du Kwilu, Jean-Mayo Mbongo Passi, signale que beaucoup des gens à Bandundu se font passer actuellement pour des déplacés et bénéficient des biens destinés à ces derniers, alors que les vrais déplacés souffrent. Le ministre Mbongo Passi, qui assure l'intérim du gouverneur du Kwilu, l'a fait savoir à l'occasion du lancement d'un projet de l'ONG Cause Rurale sur la sécurité alimentaire en faveur des déplacés de Kwamut vivant au Kwilu. On écoute Jean-Mayo Mbongo Passi dans ses propos recueillis par Irène Boma.
Nous avions déploré cette attitude qui n'était immorale.
Parce que vous savez que nous sommes en face d'un problème de moralité. Beaucoup de nos frères ici à Bandundu prennent place comme de déplacés, alors que les vrais déplacés sont en train de souffrir. Ce qui arrive à nos frères, nous pouvons aussi demain être déplacés. Il faut s'imaginer que nous ne sommes pas à l'abri de ce que les autres connaissent. Si on a un peu de riz à leur donner, laissez que le vrai déplacé puisse bénéficier de cela. C'est une question d'honnêteté, une question de moralité.
Et c'est vrai que nous avons travaillé avec OCHA pour qu'on puisse identifier réellement le vrai déplacé. Et ce travail a été fait avec le concours de division de affaires humanitaires. Donc au moins aujourd'hui, nous sommes sûrs que les identifiés vont réellement bénéficier de l'aide et non ceux qui se font passer pour des faux déplacés. Il est très important qu'on puisse dénoncer des pratiques qui cherchent à nuire aux déplacés, à prendre la place des déplacés.
Dans l'actualité aussi, évasion des détenus mercredi à la prison centrale de Kalemie. Plusieurs coups de feu ont été entendus au niveau de la prison. Le porte-parole du gouvernement provincial du Tanganyika confirme l'information. Des sources sur place rapportent que quelques détenus ont été blessés par balles. Difficile pour le moment de savoir le nombre exact des évadés. Témoignage du président du mouvement citoyen un Parlement debout sans tabou, Nathan Mugisho, au micro de Paulin Munanga.
Nous avons entendu les coups de balles crépiter du côté de la prison centrale. Du coup, on a vu qu'il y a une panique générale. Colline de l'État, dans la commune Kalemie, où se situe la prison centrale. Nous avons vu des personnes sans souliers en train de courir. Et après quelques minutes, d'autres personnes blessées, transportées, amenées à une polyclinique d'à côté. Et on nous a informé qu'il y a eu évasion à la prison centrale. Cette situation fait peur pour la population de Kalemie. D'abord, nous vivons dans la psychose par rapport à tout ce qui se passe à l'est de notre pays. Et puis, les balles qui vont crépiter à 16h. Il y a eu des bandades au niveau du port de Kalemie où il y a un marché partout sur la route. Et il y a eu panique. Ce que nous pouvons demander au gouvernement provincial, c'est de fournir les efforts maintenant pour sécuriser la population parce que les bandits qui étaient dans la prison se sont déversés dans la société pendant cette période où la population elle-même est dans la psychose, dans la peur de tout ce que nous vivons.
Actualité internationale. Les Nations Unies publient un rapport alarmant cette semaine sur la situation au Soudan. Dans cette étude, l'ONU alerte sur des combats donnant lieu à des violations généralisées des droits de l'homme, des abus, un ciblage délibéré d'établissements de santé, ainsi que des exécutions motivées par l'appartenance ethnique des victimes. La situation au Soudan semble s'aggraver depuis le début de l'année, alors que le conflit a déjà tué plus de 28 000 personnes et forcé des millions de Soudanais à fuir leurs maisons, indique l'ONU.
l'invité.
Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, s'implique pour appuyer le rétablissement de l'énergie électrique dans la ville de Goma. C'est notamment en facilitant l'accès au personnel technique dans les zones non encore accessibles pour des réparations des lignes haute tension notamment. Les affrontements autour de Goma ont impacté considérablement la fourniture d'eau et d'électricité, occasionnant d'autres conséquences humanitaires. Constat du CICR, et pour en parler, nous recevons Eleonore Assomani, porte-parole du CICR à Goma. Elle fait également un survol sur la situation sanitaire et sécuritaire dans cet entretien avec Sifa Maguru.
Bonjour Madame Eleonore, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste l'appui ou la contribution du CICR pour le rétablissement de l'énergie électrique dans la ville de Goma?
Les affrontements qui ont eu lieu en janvier autour et dans la ville de Goma ont entraîné d'importantes perturbations des services essentiels. Des infrastructures clés pour la fourniture d'électricité et de l'eau ont donc été touchées, ce qui a engendré de graves conséquences humanitaires pour la population civile, y compris en termes d'accès aux biens essentiels, à la survie, comme l'accès à l'eau. Donc le CICR, en rétablissant l'électricité, a permis de relancer la station de pompage notamment d'eau de Kichero, qui alimente plusieurs quartiers de Goma et divers établissements médicaux, dont l'hôpital CDC à Ndosho, qui est également soutenu par le CICR.
Qu'est-ce qui motive ces gestes ou quelles réponses voulez-vous apporter en faveur de la population?
Ce rétablissement des lignes d'électricité qui donc restaure également l'eau est primordial pour la population, notamment au moment des combats où nous avons réussi à garder la ville sous perfusion avec des réparations d'appoint, ce qui a ensuite suivi au moment où les combats ont baissé avec des réparations plus de longue durée, y compris celles de la ligne de Virunga dans le nord de la ville et actuellement en cours les réparations de la ligne de la SNEL plutôt dans le sud de la ville. Donc ça, ce sont les lignes de haute tension et qui contribuera au rétablissement complet des lignes d'électricité pour la ville de Goma.
Depuis l'occupation de la ville par les rebelles, la criminalité a accru dans la ville de Goma et aux alentours. Quel état des lieux faites-vous par rapport aux incidents sécuritaire ainsi que le nombre des victimes que vous enregistrez?
Comme souvent dans les conflits armés, spécialement quand les combats, les affrontements ont lieu dans des zones densément peuplées ou dans des centres urbains comme la ville de Goma, on observe en effet une augmentation d'armes qui circulent et qui est rendue disponible à la population, ce qui provoquait en effet des pics de violence, que ça soit des pillages, des cambriolages, etc.
Est-ce que le CICR rencontre les défis éventuels pour apporter assistance à la population ces derniers temps?
Actuellement, un des défis les plus importants que rencontre le CICR pour apporter l'assistance aux populations affectées continue à être le pillage de nos entrepôts. Donc, plusieurs pillages d'entrepôts humanitaires ont eu lieu au moment des affrontements, fin janvier 2025. Et cela continue à être un défi pour nous, étant donné qu'un entrepôt du CICR également a été pillé. Car c'est arrivé à un moment où les intrants médicaux qui étaient stockés se faisaient déjà de plus en plus rares au niveau des structures médicales que nous tenions, c'est-à-dire CBC à Ndosho, l'hôpital CBC à Ndosho, ainsi que l'hôpital provincial de Goma, à cause des afflux très sévères de blessés, un nombre de blessés qui n'était pas du tout prévu dû à ces affrontements. Un deuxième défi qui se fait de plus en plus ressentir dans la ville de Goma et ses alentours, c'est la présence d'engins explosifs. À nouveau, dans les conflits armés, lorsque certaines armes sont utilisées, il y aura donc des restes de guerre. Et ça peut être problématique parce que si ces restes de guerre ne sont pas bien identifiés et retirés, la population civile qui ne saurait pas forcément les identifier par eux-mêmes deviennent à risque, notamment les enfants qui vont peut-être jouer avec certains restes de guerre. Donc voilà, on appelle à toute personne en charge de travailler à ce que ces restes de guerre soient retirés de manière sécurisée afin que la population civile n'y soit pas exposée.
Madame Eleonore, est-ce que l'enterrement des victimes s'est terminé et qu'en est-il des interventions d'assainissement de la ville pour éviter la propagation des maladies?
En ce qui concerne les enterrements et la gestion des dépouilles mortelles, il faut savoir que à partir du moment où les corps sont collectés, le risque sanitaire disparaît. C'est-à-dire que l'important, étant donné que la collecte des corps est terminée, les risques ne sont plus là.
Merci beaucoup, Éléonore Assoumani, porte-parole du CICR à Goma.
Et notre invité répondait aux questions de Sifa Maguru. Par ici prend fin ce journal. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.